ラフトレ
Bonjour et bienvenue dans le numéro 53 de Jaf Tamer depuis le Périgord avec Stéphane sur RLP 102.3. Aujourd'hui, dans ce numéro 53, nous aurons la suite du débat initié la semaine dernière, justice et subjectivité, toujours avec monsieur Claude Néris, ancien policier devenu prof de droit et président d'SOS Exclusion Parentale, ainsi qu'Olivier Guerrier, enseignant à l'Université de Toulouse, Maître Tapiero, avocat, Ricardo Fernandez, en tant qu'exemple absolument intolérable, un de plus, et donc moi-même en tant que président de l'association Équité Parentale. Avant de vous laisser dans ce débat, je vous annonce que la semaine prochaine, nous aurons une interview exclusive de Maïté Lonne, la vice-présidente de l'association Les Enfants d'Argus, qui lutte contre la pédophilie. Membre de l'Observatoire des violences faites aux femmes en Belgique et porte-parole de l'Innocence en danger Belgique. Madame est éducatrice, habite à Bruxelles et également autrice, auteure de plusieurs livres dont nous parlerons vendredi prochain. Voilà, ne bougez pas pour ce débat, c'est tout de suite après ça.
RLP,
Radio Libre en Périgord.
Oui, alors face à tout ça, face à la carence donc qu'on évoque tous et cette souffrance qui est en latence, bon, écoutez, quand je réfléchis à la situation en fonction de chacun, hein, qui est évidemment chaque cas d'espèce, on parle de la situation dramatique vraiment de Monsieur Fernandez, mais quand on réfléchit un petit peu, on voit que beaucoup de décisions sont prises bien sûr par la subjectivité. Alors chacun a la sienne, évidemment chacun a son appréciation de chaque cas d'espèce. Il y a l'émotion qui guide aussi, il y a beaucoup la médiatisation, il y a l'air du temps. Je vous invite vraiment tous, à tous vos auditeurs, à lire un magnifique livre qui a été écrit par un confrère, co-écrit, qui s'appelle « La dictature de l'émotion », voilà, de 2002. Bon. Vous intéresserez donc à, j'en dis pas plus, vous intéresserez à ce livre qui est au demeurant très intéressant et qui résume un petit peu tous les éléments que vous venez de d'évoquer. Moi, j'imaginerais au moins quatre points sur lesquels le législateur pourrait s'intéresser. Comme je vous l'ai dit, je fais un peu plus de pénal que de droit de la famille, mais néanmoins, je vous l'ai dit, le trait commun, c'est que la violence est significative également en droit de la famille. Elle est très aiguë, vraiment. Elle prend aux tripes et quand on entend la situation de certains clients, de certains justiciables, il faut se dire aussi que l'avocat, quand il est un petit peu investi de sa mission, prend les coups aussi. Il prend les coups aussi. Voilà, parce qu'il a, bien sûr, la relation avec son client, dont il perçoit toute la souffrance. Et puis il a, bien sûr, la violence de l'injustice que son client et le justiciable peut vivre. Donc, évidemment que, quand bien même on soit professionnel, les coups, on les prend aussi. Et les situations d'audience très désagréables, qui frôlent l'incident, on les vit aussi. On les vit aussi. Alors, évidemment, on peut réfléchir et on peut dire, c'est bien de parler de souffrance, c'est bien de dire tout ça, mais il faudrait envisager aussi des solutions. Alors, les solutions pourraient être, tout d'abord, que dans la loi, il soit écrit un principe comme l'équivalent de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, mais version famille. Un article qui serait créé et qui voudrait faire du principe que le lien avec les deux parents soit maintenu et que très exceptionnellement, on en vienne à une rupture de ce lien par suspension de l'autorité parentale, de l'exercice de droit de visite, etc. Donc, il y a un article dédié qui puisse être écrit dans la loi. Ensuite,
la présomption de résidence alternée, en fait.
Alors, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je verrais que ce serait un pendant, comme le code de procédure pénale, on parle de la présomption d'innocence. voilà, dans l'article préliminaire, moi je verrais cependant là dans le code civil. On a une inflation législative, je crois qu'un article de plus, un article de moins, ça va mieux en le disant, en gros. Ensuite, je serais pour que le juge aujourd'hui, le juge aux affaires familiales, a des compétences énormes depuis 2010 et les réformes successives. Je serais que pour que l'ordonnance de protection soit ne soit possiblement rendue que par un juge dédié à cette ordonnance-là et que ça sorte de la compétence du juge aux affaires familiales. Ensuite, je serais pour que il y ait des protocoles systématiques dans les divorces où il y ait un process qui veut que dans tous les cas où il y a des enfants, sauf cas bon. Il n'y a pas forcément d'accrochage particulier dans le couple, mais qu'il y ait une enquête sociale qui soit diligentée immédiatement. Voilà. Dans tous les cas de divorce où ça remue, où
il y a ne sont pas fiables.
Probablement, mais ça devrait être des process d'automaticité. Ça devrait être automatique. Une enquête sociale automatique.
Les parents, on perd les, un an.
C'est pas l'expertise.
On perd un an et elles ne sont pas fiables.
Ça peut aller très vite. Vous savez, quand on fait un débat de la liberté devant un juge de la liberté, elle est faite dans l'heure avant de passer à la sortie d'une
barre d'avis. Alors, oui, mais l'expérience montre que l'enquête sociale, à un moment, est diligentée. Elle arrive ensuite, il se passe entre 6 mois et 1 an.
Alors, on peut, à mon sens, quand on veut, on peut. Et quand on veut accélérer les choses, on le peut. Ça se peut sur le version répressif. Ça le peut aussi dans des situations graves, à mon sens, sur le volet droit de la famille. Et enfin, je suis pour que systématiquement dans les audiences au sens large qui concernent un couple qui a des enfants, que systématiquement il y a un avocat de l'enfant qui soit désigné pour les enfants. Voilà. Je suis pour ces quatre mesures. Alors le législateur peut s'intéresser à ces questions, mais je pense que ce serait de l'ordre de peut-être des idées qui permettraient de mettre un certain nombre de pare-feu. Et pour éviter certains abus, parce qu'aujourd'hui, le procès civil, c'est quand même la chose des parties. Et à la fin, ça vient deux parties qui présentent leur cause devant un juge. Et le juge, en réalité, le mouvement du droit de la famille a voulu que le juge se désengage et laisse la main, en gros, aux parties et à la famille. Et c'est ce double mouvement où le juge est prépondérant dans les décisions, mais avec des mauvais outils, et en même temps, toutes les parties qui apportent quelque part les éléments et qui veulent tirer la couverture à eux, qui créent ces dysfonctionnements.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'une formation collégiale serait nécessaire ?
Ah oui, complètement, comme en correctionnel, évidemment, évidemment. Une collégiale, évidemment.
D'accord. Il y a un autre problème soulevé tout à l'heure par Stéphane. C'est vrai que le problème des enquêtes sociales réalisées par des organismes délégués par l'ASE, hein, ce sont souvent des associations, alors on les connaît, OXTE, Expoir, etc., qui interviennent dans le cadre de ces mesures d'investigation judiciaire notamment, sont souvent juges et parties. C'est-à-dire qu'ils vont préconiser des solutions qui souvent sont orientées vers une aggravation de la situation qui leur permet de récupérer les placements dans les foyers ou sur les familles d'accueil. Donc, il y a quand même un business qui est derrière, qui est latent. Et puis, en plus, il y a un problème de formation. Lorsque on demande à un éducateur, même éducateur spécialisé, de se prononcer sur le comportement d'un parent par rapport à ses enfants et que cet éducateur, il a 20 ans, je suis désolé, mais il y a un problème. Quand l'éducateur, en plus, c'est un éducateur spécialisé, parce que dans certaines structures, vous avez un éducateur diplômé et puis vous avez 10 personnes qui sont pas du tout diplômées. On regarde au niveau de ces structures, elles sont en recrutement permanence. Il y a un turnover énorme parce que déjà, ils les payent pas. Donc, il y a un turnover énorme et puis vous retrouvez avec des gens qui vont se prononcer sur... Monsieur a telle relation avec son enfant, c'est pas normal. Ou Madame a telle relation avec son enfant, c'est pas normal. C'est quand même. Alors au milieu, on va vous faire intervenir. Moi, j'ai eu le cas à titre personnel, deux psychiatres. On fait intervenir un psychiatre à la retraite qui est complètement décati dans son coin. On le sort, on le dépoussière, on vous l'amène et puis lui, il va vous pondre un diagnostic rapide comme ça, où il vous aura entendu pendant 20 minutes, et puis il va prendre un diagnostic. Et le juge se base sur ce genre d'expertise qui sont les expertises bon marché pour dire c'est la vérité absolue. C'est un expert qui s'est prononcé, c'est un service expert qui se sont prononcés, et en fait ce service n'est pas du tout expert. Alors on a un secrétaire d'État qui est Monsieur Taquet, qui normalement doit s'occuper de ça. La réforme de l'aide sociale à l'enfance, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place, parce que l'aide sociale à l'enfance, elle intervient au niveau des placements, mais elle intervient souvent au niveau du JAF. Lorsqu'une mesure d'investigation judiciaire est confiée à ces organisations, il faudra déjà peut-être voir la compétence des gens qui mènent ces mesures. Ricardo ?
Ouais, moi je peux intervenir rapidement sur les enquêtes sociales, juste pour signaler, puisque je suis là pour témoigner de mon cas, que dans mon cas, les enfants n'ont jamais été entendus seuls, alors par un quelconque acteur de la justice, hein, qui pourtant ont été plusieurs à se prononcer, n'ont jamais été entendus, et que par ailleurs, même par des tiers, donc on parle de l'ASE ou qu'il s'agisse d'autres tiers, on va dire, qui peuvent être impliqués, pour autant que moi je puisse le savoir, puisque bien entendu je n'ai plus aucun contact ni aucune information, pour autant que je puisse le savoir, c'est-à-dire à travers les pièces produites en justice, mes enfants n'ont jamais été entendus hors la présence de la mère. Jamais. Il n'y a pas une pièce. Voilà. Donc on est quand même là dans quelque chose qui me semble quand même assez inquiétant. Moi-même, j'ai souhaité depuis le tout début qu'on fasse intervenir, qu'on demande une enquête sociale ou quelque chose. Bien entendu, ça n'a jamais été fait. Donc, dans mon cas, les enfants, on invoque la parole de l'enfant, on légitime tout par la soi-disant parole de l'enfant, mais c'est une parole qui est modelée exclusivement, dans quelle mesure, je ne sais pas, mais exclusivement, en tout cas, par la mère et son univers et ses proches, et en tout cas, sans la moindre de mes interventions sous une quelconque forme depuis 16 mois. Voilà pour ce premier point-là. Donc oui, quand même, tout ce qui peut contribuer à entendre, si possible, la réalité du ressenti et de la vie de l'enfant, ça me semble assez souhaitable, et indépendamment après des lacunes qu'on peut trouver en plus dans les organismes qui pourraient intervenir. Ouais, juste un tout petit point. Oui.
Vous interromps. En fait, ce qui serait nécessaire, c'est qu'il y ait davantage d'équité dans le traitement des parties. Qu'effectivement, cette équité soit réelle et qu'on écoute autant le père que la mère.
Les enfants.
Et les enfants, bien sûr.
Là, dans mon cas, moi, j'ai l'impression qu'on n'entend que la mère. Des fois, avec la voix des enfants, mais que la mère.
Très souvent. Donc,
forcément, on n'est pas à l'abri, comment dire, d'une situation qui dérape. Voilà. Surtout si on le prend pour argent comptant.
Maître Tapiero, à vous.
Et que l'émotion, surtout, les phrases, les traverses dans lesquelles on peut rencontrer par l'émotion, par le sentiment d'injustice, par les tensions, par la peur, soient appréhendées différemment. Tant que le Rubicon n'a pas été franchi des violences, etc., quand on en vient à évidemment, certains excès, qui sont toujours regrettables, évidemment, que le juge puisse admettre que quand on enlève la chair de sa chair, la raison, elle est plus prépondérante. Et ça vaut pour chacun de nous.
Tout à fait. Olivier ?
Non, ce qui me paraît assez incroyable, en réalité, bon, je ne veux pas vraiment tirer à boulet rouge ni de ma proposition d'universitaire plutôt dans le domaine, disons, des lettres et des sciences humaines, mais ce que j'ai constaté, et pas seulement par mon cas, c'est que on traitait finalement les affaires familiales avec une espèce de technicité un peu effrayante, là où précisément on est dans un périmètre des plus sensibles, et pourtant, en France, que de considérations depuis des dizaines d'années pour la psychologie de la famille, de l'enfant, etc. Là, on a l'impression que c'est traité en deux coups de cuillère à peau. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur l'expertise. En effet, où c'est quand même un peu la cour du roi Péto, il faut bien le dire, hein, c'est vrai, c'est-à-dire que le pouvoir a voulu se légitimer par un savoir, mais ce savoir ne fonctionne extrêmement mal, d'une manière générale. C'est effectivement des psychiatres, par exemple, qui rendent des avis médicaux n'importe où ailleurs, on pourrait les envoyer au Conseil de l'Ordre, là, ils sont couverts par le juge, enfin, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est même un peu se foutre de la gueule des autres périmètres, il faut bien le dire, hein, d'une certaine manière. Bon, heureusement qu'il y a certains avocats pour vous accompagner, pas tous, il faut bien le dire, parce qu'eux aussi sont épouvantés et finissent par plier, parce qu'il y a une espèce de force d'inertie qui s'exerce, qui fait que comme malheureusement comme Ricardo, comme nous autres, on est dans la mauvaise case au départ, eh bien on est victime de tout le système qui vous tombe dessus, et que loin de pouvoir appeler à l'aide à une forme d'équité, d'une certaine manière, il y a une espèce de manière de trancher dans l'art, et donc d'exclure. Moi, j'ai eu coutume de dire que l'intérêt des enfants, de ce point de vue-là, c'est un véritable rideau de fumée, c'est un chiffon rouge. Avant toute chose, c'est l'intérêt du système qui compte. Voilà. Bon, je suis un peu virulent parce que ça éveille des choses. C'est l'émotion, comme dit Maître Tapiero. Mais enfin, bon, je parle encore une fois de cas extrêmes, tout en sachant que malgré tout, il y en a qui sont quand même résolus correctement, fort heureusement.
Bon, est-ce que je peux rebondir sur quelques statistiques ?
Vas-y.
Alors, on va les rappeler, elles sont visibles sur le site de l'association et sur le blog. Hein. 20% des papas perdent le lien avec leurs enfants après leur divorce, les stats officiels. 40% des enfants de moins de 25 ans issus d'une union rompue ne voient leur père que rarement ou jamais, contre 15% pour la mère. Et par rapport au nombre de suicides pour les pères, les chiffres sont un petit peu... On oscille entre 1300 et 2005, on ne sait pas trop parce qu'il y a ceux qui motivent leur acte, ceux qui le motivent pas. En tout cas, il y a un point qui est évident, c'est que nous sommes dans un domaine où il n'y a pas d'équité, alors que, je répète, la Constitution instaure une équité devant la loi. Nous sommes dans un domaine, effectivement, qui fonctionne mal. Je rebondis encore sur l'interview de Gérard Poussin qui nous explique que à 170 euros, l'expertise psychologique, il y a assez peu de candidats. C'était confirmé par Madame Dominique Masse, qui est experte à la Cour d'appel de Saint-Denis à La Réunion, qui d'ailleurs nous disait qu'ils avaient eu un scandale à La Réunion dans tous les journaux parce que ben, les experts psychologues faisaient des copier-coller. Et donc, on se retrouvait avec 20 ou 30 expertises psychologiques qui étaient absolument identiques, sauf le nom et le numéro de dossier qui était au-dessus. Alors, c'est tellement fiable tout ça, ça marche tellement bien que, par contre, moi, je ne demande pas plus de justice, je demande moins d'institutions. Nous demandons au niveau de l'association, au niveau de nos contacts, ce que nous militons, nous demandons pour une automatisation et qu'il y ait moins d'interventions étatiques. Parce que plus nous avons d'interventions structurelles, et plus nous avons de dysfonctionnements, plus nous avons de place pour l'idéologie. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait un enfant, quand on se sépare, ça devrait être comme en Europe du Nord, on garde le lien avec son enfant, sauf s'il est démontré qu'on est dysfonctionnant. Et ce n'est pas à nous de démontrer qu'on n'est pas dysfonctionnant. On est présumé comme ne l'étant pas. Hein. Donc, en fait, des parents qui se séparent, les enfants doivent garder accès à leurs deux parents. C'est la CIDE, hein, la Convention internationale des droits de l'enfant, nous avons signé. C'est l'origine de la loi de 2002, c'est le débat de Ségolène Royal, qui voulait que la résidence alternée soit par défaut. Ça a été dit durant les débats. Bon, les pigeons voyageurs sont jamais arrivés aux divers... tribunaux, parce qu'ils sont perdus, ça n'a pas encore été appliqué. Depuis 18 ans, ils n'ont pas compris encore ce qu'on leur demandait, ces gens. Mais moi, je demande à ce qu'il y ait moins d'institutions, plus d'automatisation et qu'on encourage au maximum la conciliation au lieu d'utiliser des intervenants qui, un, sont peu motivés ou qui vont être médiocres pour des raisons X ou Y ou alors qui, par intérêt personnel, vont mettre des flammes et enflammer, compliquer les situations parentales.
Intéressez-vous peut-être aux décisions qui ont été rendues par la Cour européenne des droits de l'homme sous l'angle de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Vous pourriez être surpris de l'appréciation qu'en fait la Cour européenne sur la question de l'article 8 adapté à la famille. C'est très instructif quand elle estime elle-même que le lien doit être maintenu et qu'il est de la responsabilité de l'État.
Mais oui,
je suis d'accord. De manière positive, voilà.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, maître. Moi, je constate seulement que nous avons
un flou ensemble de personnes.
Mais je ça comprends rejoint bien. Mais oui, mais dans la pratique, ce n'est pas appliqué. Et donc, pour soulager la souffrance des gens et pour aider, moi, je demande à ce qu'il y ait moins d'institutions. Lorsqu'on en est à 6 mois pour avoir une audience, parfois 1 an et demi dans certains endroits et que les enfants ont 4 ans, comment on fait? Vous voyez ce que je veux dire?
C'est, vous avez des fois des décisions qui sont rendues, et qui, avec le nom d'autres personnes.
Oui, ben voilà, c'est tout ça, vous comprenez. Je vous critique pas vous, je critique pas les personnes, hein, comprenez-moi bien. Hein. Je critique la mise en place d'un système et pour moi, il faut simplifier. Simplifier, ça veut dire qu'on pourrait prendre des... Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait automatiser sans forcément les mettre en fonction du jugement ou de l'arbitraire de personnes multiples qui... Enfin, attendez, moi, je me rappelle d'audiences où on avait les pièces devant la porte d'entrée et il n'y avait même pas d'encre dans la photocopieuse pour qu'on puisse les copier. Excusez-nous, mais c'est nos enfants, c'est nos gosses, vous voyez, c'est plus important que tout. Donc, on peut aussi demander à ce que y ait moins d'institutions dans ce domaine.
Alors, moi, par rapport à ce que tu es en train de dire, moi, je me pose la question. Est-ce que c'est de l'incompétence? Est-ce que c'est un manque de moyens ou est-ce que c'est volontaire? Est-ce qu'on rentre, c'est pas du tout la démarche complotiste, hein, mais de se dire quand même, ça fait un moment qu'on parle des problèmes de justice aux affaires familiales, de justice des enfants.
Il y a pas que nous.
Il y a pas que nous. Toutes les associations en parlent.
Et non, mais je veux dire par là, tu vois, j'ai un ami qui s'est fait agresser sur un parking en janvier 2019. Les gendarmes l'ont appelé au mois d'août.
Oui, tout à fait. Moi, là, je parle. Ouais,
c'est pas que le familial, hein, qui va pas, hein.
Ouais, bon, je pense qu'en matière pénale, oui. Bon, alors, si on va effectivement, tout ce qui concerne les non-représentations d'enfants, il y en a qui ont des postes de 50aine et ils sont jamais.
T'as des enfants qui se font agresser à l'école sexuellement, il y a aucun jugement avant 2 ans et demi, 3 ans. Donc, ce n'est pas que le familial, c'est un...
Il y a un problème, de toute façon, au niveau, je pense, du parquet. Parce que, l'opportunité qu'a le magistrat du parquet du classement sans suite, pour moi, est aberrant. À partir du moment où un délit ou un crime, généralement un délit, est constitué, il doit être poursuivi. Il doit au moins être instruit, même s'il n'est pas poursuivi. Voilà, pour moi, je ne vois pas pourquoi cette possibilité laisser au magistrat du parquet de classer sans suite, c'est problématique. Nous, on a eu l'expérience, effectivement, de notre vice-présidente dont l'enfant a été tué par le père. Il y a eu quand même 10 non-représentations d'enfants. Moi, j'ai appelé personnellement le procureur de la République en disant, on joue à quoi, là?
Moi, j'en ai un qui a porté plainte parce qu'il a volé son courrier dans sa boîte aux lettres. C'était 3 ans pour la plainte. 3 ans avant qu'elle soit instruite.
Le procureur avait donné l'instruction aux forces de police et de gendarmerie de ne plus prendre les plaintes.
Alors, c'est
une façon de simplifier.
C'est une faute. Il n'y a qu'à lire l'article 15 du Code de procédure pénale pour savoir que les plaintes doivent être reçues. D'accord. Oui. Ensuite, heureusement qu'un classement sans suite en France, ce ne soit pas la porte définitivement fermée à ce qu'une justice pénale s'exerce. Vous avez toujours la possibilité de procéder si vous avez un certain nombre d'éléments de preuve par voie de citation directe. Et vous avez également, dans un certain nombre de cas, évidemment, la possibilité de saisir un juge d'instruction par une plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction. Voilà. Ça fait partie des armes très dérogatoires par rapport à d'autres pays que nos justiciables français possèdent. Et qui sont évidemment très peu souvent mises en œuvre.
Ouais, voilà. J'aurais tendance à vous dire très peu souvent mises en œuvre. Quand on est à l'aide juridictionnelle, c'est vrai qu'on n'a pas à sortir d'argent pour ce genre de procédure. Quand on n'est pas à l'aide juridictionnelle, c'est quand même des procédures qui coûtent de l'argent. On va vous demander une consignation.
Exactement.
Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas... la justice gratuite, là, elle ne l'est pas.
C'est le pendant du fait que la victime a des pouvoirs très dérogatoires en matière de procédure pénale. Voilà, que n'ont pas d'ailleurs certains autres pays. Je répète.
D'accord.
Voilà. Mais il y a ce volet-là qui mérite également toutes les attentions. Parce que quand des cas graves se passent, vous n'êtes pas sans moyens pour agir. Il n'y a pas que le juge aux affaires familiales qui peut régenter la matière. Voilà. Les violences psychologiques, certes, syndrome d'aliénation parentale, etc., c'est pas reconnu. Encore une fois, je rentre pas dans le débat, mais en termes de violences psychologiques, c'est reconnu. La non-représentation d'enfants, c'est reconnu. Voilà. Bon, il y a encore des moyens, heureusement.
Encore, mais je pense qu'on va. Il y a quand même une volonté de que ces moyens s'amenuisent de jour en jour. Toujours, je suis pas dans le complotisme, mais je vois les pressions qui sont faites par des associations néo-féministes notamment pour la suppression de la, de la non-représentation d'enfants, etc. Il y a vraiment une volonté, je pense, de porter atteinte. Alors c'est peut-être que je vais trop loin dans ce mode de raisonnement, mais c'est ce que je pense. Je pense qu'il y a une volonté de porter atteinte à la cellule familiale et une volonté de diviser. Ça, je le ressens comme ça, une volonté de diviser. On tape d'abord sur le maillon fort qui est le père. Ensuite, la femme se retrouve dans une situation souvent précaire parce qu'une famille monoparentale, eh ben c'est un problème. Hein, ça la précarise. Et donc, ça permet effectivement d'avoir la mainmise sur cette population qui est précaire et dont on fait un peu ce qu'on veut. Enfin, je le ressens comme ça. Je le ressens comme ça. Alors peut-être que c'est une approche complotiste, mais bon, les faits me démontrent. Je comprends pas. Je comprends pas quel est l'objectif. Pourquoi on ne met pas en place, alors qu'effectivement il y a des discours depuis des dizaines d'années sur l'humanisme qui doit régner par rapport au traitement de la famille, et on fait tout l'inverse. On fait tout l'inverse.
Moi, je voudrais ajouter quelque chose concernant le pénal. Évidemment, personne dans ce domaine familial n'aurait envie de l'utiliser, hein, ou de le mobiliser. Simplement, quand on une non-représentation d'enfant, quand on la subit, on est bien victime de ça. Eh bien, l'expérience semble montrer que le pénal ne tient plus du tout le civil en haleine. Il paraît que c'est un adage juridique, ça. Et que dans ce cas-là, la victime est taxée de bourreau. Elle est évidemment taxée de bourreau par l'autre parent, tu te rends compte, ils veulent mettre maman en prison, mais également par les juges civils, qui finissent parfois par vous dire ça. Si bien que vos plaintes ne servent à rien, et, effectivement, même quand elles sont poursuivies, parce que d'une certaine manière, vous devenez trop violent et procédurier.
Autrement voilà. Dit, voilà, moi j'ai vu des affaires où on reprochait aux gens de se plaindre et de porter plainte.
Mais absolument.
Bien sûr.
Absolument.
Donc du coup, c'est la double, triple, quadruple peine, toujours sur le ou la même. Enfin, c'est souvent le, mais c'est parfois là aussi.
Tout à fait. Il y a des femmes qui sont aussi confrontées à ce genre de situation.
Bon, on a eu un bel exemple, hein, il y a un an et demi, rappelle-toi. C'est pour ça que cet argument de supprimer les NRE, c'est une balle dans le pied, c'est de la stupidité, ça ne tiendra pas la route. À l'examen, faut pas leur donner trop d'importance, parce que il y a des femmes, elles sont, statistiquement, c'est plus rare, mais t'as des femmes aussi qui rentrent dans ce système-là, et quand leurs droits sont pas respectés, et ben, elles en ont encore moins, et puis à la fin, elles aussi perdent le lien. Alors, il y en a plusieurs, on a un cas dramatique qui est arrivé là. Supprimer les NRE, ben, c'est idiot, parce qu'il y a des cartes dans les deux cas. Moi, j'ai la résidence alternée avec mon ex, on est soumis les deux aux mêmes lois, tu vois. Si on supprime la NRE, ses recours à elles sont supprimés comme les miens. Donc, c'est complètement stupide.
On a le cas également dans le niveau des familles homoparentales qui, elles, sont confrontées à la même situation que les familles.
Elles ont beaucoup plus de problèmes que nous, les familles homoparentales, parce que j'en avais parlé avec le président France de. Non, le porte-parole France de Contact, la représentante de l'APGL, ce sont des parents gays et lesbiens, et la vice-présidente des enfants d'arc-en-ciel, eux, ils ont un problème, c'est qu'ils n'arrivent même pas à faire reconnaître leurs droits. C'est-à-dire qu'ils s'attachent à un enfant, ils l'élèvent, il faut une adoption pour avoir le droit, le lien et autres. Et quand ils se séparent, ils vont au tribunal, et puis quand ils en sont en séparation conflictuelle, eh ben on donne l'enfant aux parents biologiques. Point final, l'autre n'existe plus du tout. Donc ils ont encore plus que la famille conventionnelle, un problème de résolution et d'accès à l'enfant lors des séparations.